les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Dans son film Irène, Alain Cavallier partait en quête du souvenir de sa femme disparue accidentellement en 1972, quelques années après leur mariage. Dans des chambres d'hôtel, des salles de bain, des appartements prêtés par des amis, ou dans la maison où il apprit la mort d'Irène, et à travers la lecture du journal qu'il rédigea les années précédant l'accident, il nous racontait son lien à cette femme et à cette histoire d'amour faite de colère, de malheur, de culpabilité, autant que de sensualité et de joie. Comme toujours depuis La Rencontre, son film sorti en 1996, Alain Cavallier tournait cette histoire seul, avec une petite caméra, et nous parlait en même temps qu'il filmait. Lorsqu'on l'entend raconter ses films, on est toujours, par la grâce du son de sa voix, de sa mélodie singulière, immédiatement replongé dans leur univers. C'est le cas dans l'émission qui va suivre, diffusée pour la première fois sur France Culture le 7 novembre 2009, et pour laquelle, au micro de Michel Simon, il racontait la création d'Irène.
Projection privée. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Alain Cavallier pour la sortie de son film Irène, qui est dans plusieurs salles parisiennes et également distribué en province, je pense, Alain Cavallier.
Oui, oui.
Donc, écoutez, c'est très intéressant parce que à cette émission, la semaine prochaine, je recevrai Alain Resnais. Et je trouve que, évidemment, vous avez 10 ans de moins qu'Alain Resnais, mais vous faites partie d'une génération qui a commencé à peu près autour de la fin des années 50, début des années 60. Le Combat dans l'île est votre premier long métrage, 3 ans après Hiroshima, mon amour. Donc vous faites partie de la même génération, tout en étant un Benjamin. Ce qui me frappe, d'une part, c'est l'extraordinaire créativité de toute cette génération, puisque encore récemment Agnès Varda, Chabrol font des films, Jacques Rivette, etc. Mais aussi que vous représentez pratiquement les deux extrêmes d'un type de cinéma d'auteur, cinéma très personnel. Vous avez tourné le dos à un cinéma de grands moyens, avec des décorateurs, avec des chefs opérateurs, des vedettes, et vous faites ces films merveilleux depuis une dizaines, quinzaines d'années, qui sont des films en numérique, avec petites caméras, dont nous allons parler, et dont Irène est, selon moi, peut-être l'achèvement le plus remarquable. Et au contraire, Alain Resnais, lui, il a continué à faire un cinéma de moyens, comme on le faisait dans les années 60, avec Jacques Saunier dans les décors, avec des comédiens professionnels, etc. C'est très assez fascinant, parce que ce sont deux réussites exceptionnelles et qui représentent deux esthétiques et deux choix de cinéma totalement différents.
C'est-à-dire que lui, quand il a commencé, tout le cinéma était dans Hiroshima. C'est-à-dire qu'il y avait le cinéma d'observation historique et documentaire, et en même temps le cinéma de raconter une histoire avec des acteurs, avec une construction très subtile. C'est-à-dire qu'il a commencé par une architecture très sophistiquée, et il a continué parce qu'il y avait une ressource énorme dans son système. Moi, j'ai commencé plus simplement avec des récits droits. Donc, petit à petit, peut-être que je me suis lassé plus vite, en fait, de ces récits-là et du système avec comédiens, argent, scénario, dont la fin était prévue au début du tournage. Donc, tout ça me semblait un tout petit peu convenu par rapport à l'émotion que j'avais devant la vie. Voilà, grosso modo. Et petit à petit, j'ai essayé de tourner plus vite, plus près de la vie, par rapport à ce qui m'était reçu, ce que je recevais, en fait. Et l'évolution du matériel, parce que nous faisons un travail d'instrumentiste, en fait, m'a permis de ressentir quelque chose et de le filmer vite. Voilà.
Vous n'êtes pas un serpent, évidemment, mais le serpent a plusieurs peaux, il se défait de ses peaux. Et je trouve que votre travail et l'évolution de votre travail de cinéaste, ça ressemble à des peaux de serpent que vous abandonnez et pour vous renouveler, une sorte de métamorphose. Parce que, évidemment, Le Combat dans l'île, L'Insoumis, c'était des films avec des vedettes. Ça va jusqu'à La Chamade, qui est un peu, peut-être, certainement le film le moins intéressant et le plus, disons, classique, conventionnel, même si, évidemment, Catherine Deneuve y est d'une beauté stupéfiante. Mais après La Chamade, vous arrêtez et vous reprenez une... Alors d'ailleurs, La Chamade, c'est paradoxal, puisque c'est peut-être votre film le moins personnel de tous les films que vous avez fait, le plus traditionnel, et c'est le seul qui est cité dans Irène.
Oui. Ben, c'est-à-dire que moi, je suis arrivé à un moment où, faisant La Chamade dans un système très classique, la beauté stupéfiante de Catherine Deneuve à 25 ans m'avait complètement comblé les yeux et le cœur. Je me disais, mais je ne vais pas continuer jusqu'à la fin de ma vie à mettre en valeur ces corps magnifiques d'hommes ou de femmes qui ont fait l'histoire du cinéma, qui ont construit l'émotion cinématographique pendant plus de 100 ans. Je ne voulais pas me retrouver à 70 ans demandant à un jeune homme superbe et à une jeune femme de s'embrasser et d'émoustiller, je veux dire, une salle. Alors je me suis posé la question petit à petit, et en même temps je me suis dit que les contraintes financières et de liberté et d'absence de liberté me posaient un problème grave. Alors j'ai simplifié et je suis allé petit à petit directement à l'origine de la vie, à l'origine des gens, à l'origine de moi-même, et j'ai fini par me retrouver devant une glace, quoi.
Je dirais tout de même que, je crois que vous le reconnaîtrez volontiers, que les films de votre deuxième période, si on peut parler de période, c'est-à-dire Le Plein de Super, après une absence du cinéma pendant 5-6 ans, vous avez des comédiens inconnu, vous faites un film un road movie alors qu'il n'est pas dans une tradition de l'époque. Puis Martin et Léa et Un étrange voyage, ce sont des films disons encore classiques, narratifs, etc., mais qui parlent beaucoup de vous en fait, qui sont déjà personnels. Ils sont pas aussi personnels directement que votre série autobiographique en numérique, avec la petite caméra. Mais néanmoins, Un étrange voyage, par exemple, je crois que ça devait être même vous, au départ, avec votre fille, Camille de Casabianca, qui deviait l'interpréter. Finalement, c'est Jean Rochefort qui l'a joué. Donc, il y avait quelque chose de personnel dans ce projet.
L'autobiographie, elle est dans tous les films des cinéastes, dans ceux de René, je veux dire... Très, un peu dissimulé, mais enfin, il faut gratter légèrement. Et moi, petit à petit, au début, les acteurs, c'était mes doubles, hein. Et quand j'arrivais le matin sur le plateau, je faisais tout leur parcours de la journée, je me mettais à l'intérieur d'eux-mêmes, et en fait, c'était moi. Et petit à petit, j'ai abandonné ces masques-là, et je me suis intéressé à la proximité. Et la proximité, c'était des jeunes gens que j'avais rencontrés, de jeunes comédiens, avec lesquels j'écrivais les scénarios pour que ça soit leur voix et leur parole. Après, ça a été ma fille. Et puis comme ça, j'ai fini par filmer ce que je pouvais ou toucher ou embrasser, c'est-à-dire ce qui était là, à côté de moi, et qui acceptait que je le filme, quoi.
Mais... Pouvez-vous me parler un peu plus en détail de cette intention que vous aviez au départ de jouer dans Un étrange voyage ?
Alors, pour Un étrange voyage, j'ai une fille, et quand elle a eu vers 20 ans, j'ai trouvé qu'elle avait une tête absolument magnifique, une sculpture magnifique. Et je me suis dit, il faut que je garde une trace d'elle. J'ai, dans un journal, vu un fait divers magnifique, c'est-à-dire que c'est un... deux Japonais et leurs enfants qui arrivent à Paris venant de Venise, et puis la mère n'est plus dans le train. Ils rentrent, c'était des pâtissiers, ils rentrent à Tokyo, et puis un des fils qui ne supporte pas que sa mère ait disparu, il revient, il fait un petit calcul, comme quoi elle est morte sur 100... Elle a disparu du train sur 100 kilomètres entre Dijon, etc. Et il fait le long des voies. Et il trouve le corps de sa mère, et je trouve la photo d'enfant François, je me dis, c'est magnifique. Alors j'ai commencé à réfléchir à ça, et puis j'ai pensé qu'un homme seul battant les fourrés le long d'une voie ferrée, c'était pas suffisant, et je me suis dit, je vais introduire sa fille à lui. J'ai écrit le scénario avec Camille, qui était ma fille. J'ai eu l'intention de faire son père aussi, et de régler aussi nos petits problèmes à tous les deux, qui étaient à la fois roses et un peu gris et un peu noir, comme avec Irène. C'est exactement la même chose. Et puis je me suis dégonflé au dernier moment, et j'ai demandé à Jean Rochefort de se mettre à ma place. Il l'a fait magnifiquement bien. Et d'autant plus que, en plus de ça, il venait de perdre sa mère il y a quelques mois, et il a donné au film quelque chose que je ne lui aurais pas donné, en fait.
Martin et Léa, alors c'est également une approche qui est, non pas documentaire, mais qui est proche de la réalité, comme si tous vos films venaient de la réalité. Enfin, c'est peut-être vrai de tous les artistes, mais vous particulièrement, puisque au départ, je crois que c'était un vrai couple qui vous avait raconté plus ou moins son histoire et que vous avez ensuite filmé.
C'était un des acteurs du Plein de Super, et je lui dis, écoute, on va faire un film sur la naissance d'un couple. Ça. Alors, on se met au travail tous les deux, et puis, il me raconte, en fait, grosso modo, sa vie avec sa femme. Alors, je lui dis, on va lui demander de venir quand même travailler avec nous, comme ça, on aura une histoire un peu complète. Alors, elle vient travailler avec nous, puis moi, je la regarde, et finalement, je me dis que... Et je lui demande de tourner dans le film. Et en fait, on a tourné le film avec elle. Elle était d'une justesse absolue. Dès la première prise, il n'y a jamais eu deux prises à côté d'elle, à cause d'elle. Elle avait une musicalité, qui rendait son mec, qui était comédien professionnel, quelquefois un tout petit peu gêné, parce que elle était évidente. C'était une Eurasienne qui s'appelait Isabello, et elle est morte. Et lui aussi est mort. Ça a été donc cette proximité dont je vous parlais. Après, je suis allé filmer des femmes qui travaillaient, parce que une femme qui travaille, c'était quelque chose qui me ma mère n'ayant jamais travaillé, j'étais attiré. J'en ai fait 24. Et puis un jour, je me suis intéressé à une petite nonne qui avait vécu au 19e siècle, parce qu'elle avait laissé un journal magnifique de sa vie dans le couvent. Et en retrouvant mon journal avant la mort d'Irène, je me trouvais dans les mêmes circonstances. C'est à la fois de la proximité, puis en même temps avoir des documents de base réels, qui fait qu'on raconte pas n'importe quoi.
Mais Thérèse, ça revient dans vos films, parce que dans Le Filmeur, je crois que vous allumez dans une église, vous allumez un cierge.
Mais moi, je suis une victime...
Pour Thérèse, devant une statue,
oui,
de Thérèse.
Oui.
C'est votre éducation religieuse. Vous êtes distant à l'égard de cette éducation, mais vous avez une éducation de plusieurs années religieuse.
J'ai tout puisé dans mon éducation chrétienne, et mais cette année de pensionnat religieux. Tout ce que je filme, les images premières, et l'espèce d'idéalisme dont mon enfance a été complètement... travailler par ça, et le temps que je descende cet idéalisme au matérialisme du travail cinématographique, de la caméra, et petit à petit ce matériel qui devient de plus en plus maniable et merveilleux, et on devient des instrumentistes. Alors là, c'est un vrai chemin que je dois simplement au fait que je suis parti de l'idéal et que je suis arrivé au matériel. Et que petit à petit, d'année en année, j'essaye de remonter un tout petit peu tout ça, quand même.
Alors, après Thérèse, il y a eu encore un film où vous filmez les autres. C'est Libérame, des hommes qui souffrent dans la résistance, etc. Dans une sorte de film, oui, sur la souffrance de l'humanité. Et puis... vous entamez cette série de films dont je disais que Irène est un peu l'aboutissement, peut-être provisoire, avec ce répondeur ne prend pas de message, premier film, puis La Rencontre, puis Le Filmeur, et enfin Irène, qui sont des films vraiment où vous intervenez, où vous êtes vraiment dans le film, parce qu'il y a aussi d'autres films dont on parlera peut-être si on a le temps, quatre portraits qui sont des portraits d'envie, quatre portraits, et puis il y a aussi ces documentaires dont vous parliez, ces 24 portraits, il y a aussi René, l'histoire d'un homme obèse qui essaye de maigrir, etc. Donc il y a aussi des portraits d'autres personnes, mais là, il s'agit tout de même des choses de très intimes, et vous avez attendu tout de même très longtemps pour faire Irène, puisque Irène, qui a été votre femme au début des années 70, donc c'est presque 40 ans après que vous vous êtes décidé à faire ce portrait. D'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse, mais l'autre point commun, enfin, il y a sûrement beaucoup d'autres points communs, mais entre René et vous, c'est que Irène joue un petit rôle, elle est la compagne de Bernard Fresson dans Je t'aime, je t'aime.
Absolument. Absolument.
Donc la décision de faire ce film,
c'est j'essaie d'analyser ça quand on me pose la question, parce que quand moi j'ai commencé à réfléchir un tout petit peu quand j'étais au pensionnat, je n'étais que une parcelle de la divinité, c'est-à-dire que j'étais là parce que. Et puis, je venais de Dieu, puis j'allais retourner à Dieu comme les 6 milliards de terriens, et que, voilà, simplement, il fallait que je sois digne de cette origine divine. Donc, j'étais nié en tant qu'individu, un petit peu. Et puis, les événements historiques terribles de 40 à 45 ont fait de moi une espèce aussi de... des millions de morts, pourquoi pas moi, je veux dire, de la négation pratiquement, je veux dire, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité humaine. Et j'ai mis très longtemps à me débarrasser de ça. Et puis quand je suis arrivé à faire des films, j'ai commencé en me disant, mais il devait y avoir une place idéale, idéalité de mon éducation, pour la caméra. C'est-à-dire que la caméra devait bien raconter comment... Vous entrez dans ce studio, vous vous asseyez là, vous vous mettez devant le micro et vous dites, commencez à dire que le monde est insupportable. Et puis je me suis dit à un moment, mais entre l'émotion que j'ai devant ce que je raconte et comment cette caméra l'enregistre d'une façon froide et un petit peu têtue et sans grâce, il y a une distance. Et donc je me suis rappelé le il des romans, il entra. Et la caméra disait aussi, la position de la caméra était neutre aussi, comme le il. Et petit à petit, j'ai fait la conquête de moi-même, j'ai beaucoup réfléchi à ça, et quand le matériel est arrivé de pouvoir coller la caméra à son œil et de parler à l'intérieur du petit micro qui est sous l'objectif, j'ai découvert le cinéma subjectif, c'est-à-dire le jeu littéraire, l'équivalent du jeu littéraire. Et ça a été pour moi... quand même un épanouissement.
Libéramé, ça a été la libération.
Oui, Libéramé, je me suis libéré des horreurs de la guerre en faisant un film sur les horreurs de la guerre, ce qui n'est pas peut-être la meilleure façon de se libérer de ces choses-là, mais enfin, c'était des images terrifiantes. Et puis après, c'est le numérique, la naissance du numérique qui... et je crois beaucoup à l'histoire matérielle du cinéma, et que ce changement technique... est une vraie révolution mentale du cerveau cinématographique.
Oui, on ne filme pas de la même façon avec des instruments différents.
Avec des instruments qui sont petits, qui sont vifs, qui sont complets, et que tout le monde peut, dès son enfance, pratiquement pratiquer. Vous vous rendez compte ? On apprend à filmer aujourd'hui comme on apprend à écrire ou à peindre.
Mais cette décision, alors, de faire ce film sur Irène ?
Alors, se greffe sur cette histoire matérielle, quand même une histoire un peu fantastique de la vie. C'est que cette personne qui était morte il y a très très longtemps a commencé à réapparaître dans ma vie.
Accident de voiture, elle...
Oui, elle brutalement d'un accident de voiture.
Oui, vous lui dites, attends, ça revient à un leitmotiv dans le film, un peu comme dans Hiroshima, mon amour, ça revient, attends-moi. Attends-moi un peu. Et puis vous n'êtes pas prêt. Elle décide de prendre sa voiture, de prendre la voiture, pas la sienne d'ailleurs. Elle prend la voiture, elle s'en va et elle ne revient pas.
Oui, c'était un après-midi banal, un dimanche, après le déjeuner. Elle, Elle avait envie d'aller se promener dans la forêt de Rambouillet, et puis elle me répétait plusieurs fois, elle criait dans la maison, on était chez des amis, « Alors tu es prêt, tu es prêt ?» Et j'ai dit plusieurs fois, « Attends un peu, je ne suis pas prêt. » Je ne me souviens pas du tout de ce que je faisais. Et puis, après, je ne l'ai plus entendu le dire dans la maison, mais dehors, je me suis penché à la fenêtre, elle me l'a répété, et puis à un moment, elle est sortie, elle dit, « J'y vais tout seul. » Alors je lui dis, « Vas-y. » Et d'une voix sans doute un tout petit peu violente, je veux dire que... Et puis elle n'est pas venue, elle a eu un accident à 3 minutes après, et nous l'avons su, à minuit. Le temps qu'elle n'avait pas de papier, la voiture ne lui appartenait pas, une espèce d'attente comme ça, folle et inouïe. Alors tout ça est revenu, mais pas à travers sa mort, à travers sa vie. C'est-à-dire que cette personne n'était plus un fantôme, n'était plus un souvenir. Je la voyais. Et comme j'ai vu Thérèse, quand j'ai fait de la biographie, le syndrome du biographe, c'est que Thérèse était vivante, et elle l'est toujours, Thérèse. Donc je me suis posé le problème, pourquoi revient-elle, Irène? Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à filmer des petits bouts qui me la rappelaient, en disant, il y a peut-être un film, je ne savais rien. Et puis voilà, petit à petit, le film s'est fabriqué. Quoi.
Et d'ailleurs, il y a un seul extrait de film, c'est dans La Chamade, et elle n'est pas dans cet extrait, mais elle figure dans le dialogue de Catherine Deneuve, qui dit, ça s'est passé comme ça entre Irène et moi.
Il y a une petite séquence dans La Chamade, un truc... Catherine Deneuve et son amant, là, son jeune amant. Et j'avais demandé à Irène, ça n'était pas dans le script, une petite scène pour indiquer que le couple commençait à grincer un petit peu. Elle m'avait écrit ce petit texte absolument délicieux, qui collait parfaitement au film, et qui était en fait, qui collait aussi à notre vie au moment de La Chamade, à notre vie à tous les deux. Et puis quand j'ai fait ce film sur Irène, j'ai pris cette séquence écrite par Yann pour me remémorer ma vie avec Yann, et en même temps, c'était l'image des films que je faisais à cette époque, il y a 40 ans, parce que c'est un film qui est de 68, donc il y a 40 ans. Donc j'inscrivais dans aujourd'hui comment je tournais avant, comment je vivais avec Irène, comment je filmais, et comment Irène pouvait écrire quelque chose qui servait à la fois le film, La Chamane, et puis en même temps... qui était un portrait exact de ce qu'on vivait tous les deux. Quoi. C'était marrant. C'est ce club sandwich, j'appelle ça. On accumule tout ça, puis on a tout en 2 minutes.
Vous jouez sur les lettres aussi de son nom. Dans Irène, il y a Reine et il y a Renier. Et je pense qu'il y a dans ce film qui est bouleversant et à la fois d'une grande pudeur et aussi d'une grande, je dirais pas impudeur, mais vous parlez des choses très très graves, peut-être d'une certaine forme de pardon que vous demandez, parce que c'était une relation tumultueuse, c'était pas toujours facile, et donc elle était à la fois reine, c'est l'exaltation, et en même temps, d'une certaine façon, à un moment vous dites que vous alliez vous séparer, que vous attendiez que ça vienne d'elle, etc.
Irène, oui, c'est Irène, et puis Reine et Renie.
Renie.
C'est pas Renie.
C'est pas Renier, c'est Renie.
C'est Renie. C'est elle qui renie. C'est-à-dire que elle est à la fois reine et en même temps, elle renie des choses très magnifiques de sa vie qu'elle ne. C'est-à-dire, il y a la face cachée. Renie, c'est la face cachée. Irène, c'est la face éblouissante, et je connaissais les deux, en fait. Et le film. En rencontre.
Alors ce film, comme d'ailleurs dans le filmeur évoquait la mort de votre père, ce film commence par la mort de votre mère, d'ailleurs ça crée un trouble chez le spectateur parce que on s'attend à voir le film sur Irène, mais ça commence en fait par la mort de votre mère. On doute de l'identité de cette femme, et en fait, bien sûr, c'est Irène qui est le sujet du film. Mais là aussi, il y a également un rapprochement avec votre mère dans le fait que vous parlez de votre naissance, la façon dont vous êtes née. Vous utilisez d'ailleurs un œuf dans une tranche de pastèque, parce qu'il y a aussi Irène avant que vous la connaissiez, elle a eu une intervention, elle peut plus avoir d'enfant, elle est stérilisée. Et vous êtes né dans des conditions difficiles. Il y a eu un forceps aussi. Donc il y a une sorte de lien entre la mère et la femme.
C'est-à-dire que Irène a été victime d'une chose qu'on ne connaît plus aujourd'hui, c'est-à-dire des avortements clandestins, avec des sondes qu'on introduisait dans l'utérus des femmes pour dégager l'embryon. Et au moment où le système s'infectait, les hôpitaux acceptaient, les cliniques, de transgresser la loi et de soigner les femmes au bord de l'infection. Et elle est devenue stérile à cause de ça. Et ma mère, comme je suis né, on lui a introduit une énorme pince parce que je me présentais par les fesses pour sortir d'abord la tête. Et j'ai cassé j'ai entendu ça par ma femme, j'ai cassé le moule. J'ai cassé le moule, ça veut dire que ma mère n'a pas pu avoir d'autres enfants. Donc c'était lié, les deux étaient liés.
Ce qui est magnifique dans le film, c'est aussi tout le jeu qu'il y a entre la voix off, votre voix, et les images. On peut remonter à Eisenstein qui disait qu'il fallait découpler le son de l'image, de la musique de l'image. Il fallait pas du tout que ce soit pléonastique. Et là, il y a un rapport merveilleux entre d'une part des images et puis un texte que vous lisez, qui sont d'ailleurs souvent tirés de carnets que vous teniez dans les années 70, 71, 72, et ces images.
C'est quand même, c'est des images qui sont enregistrées en même temps que le son. C'est-à-dire que le son n'est jamais refait après. Il y a une intimité d'enregistrement en fait, et ça se glisse après dans l'oreille du spectateur, et c'est pour créer une petite passerelle entre le filmeur et celui qui regarde quoi le film.
Dans Thérèse, il me semble qu'il y a une découverte, non pas d'un cinéma pictural, Dieu merci, de figé, mais d'une importance de la peinture et du cadre et des choses qui existaient bien sûr dans Le combat dans l'île ou dans L'insoumis, dans les autres films. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de dépouillement et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui revient régulièrement comme peintre, c'est Georges de Latour, auquel vous avez consacré un documentaire. Georges de Latour qui, d'ailleurs, je crois, par les éclairages, aura dû vous inspiré pour Thérèse, et que d'ailleurs Georges de Latour réapparaît dans Irène, une toile de Latour.
Il réapparaît, oui, c'est Madeleine. C'est Madeleine qui a quitté sa vie un peu olé-olé et qui est devant un livre, une lampe, et qui essaye de spiritualiser un peu sa vie. J'ai pas montré la discipline, le fouet. Mais en même temps, on voit ses genoux, on voit ses épaules nues, etc. C'est un magnifique détournement, si j'ose dire. Et puis j'ai fait aussi un film sur... C'est Bonnard qui m'a beaucoup aidé, parce qu'il n'a pas la même femme pendant 50 ans. Et quand elle avait 70 ans, elle la peignait toujours comme une jeune fille. C'était magnifique. Et puis Manet...
Le tableau du musée des Beaux-Arts de Lyon, dont vous dites que c'est le regard de cette femme, c'est ce qui rapproche le plus du regard d'Irène.
Voilà. Et c'est-à-dire que moi, j'ai été formé par l'écrit, déformé par l'écrit, j'ai été labouré par l'écrit, l'idéalisme de l'écrit, etc., toutes ces choses-là, avant d'arriver au fait cinématographique. Mais j'ai toujours été... Les rétrospectives et les catalogues raisonnés des peintres m'ont tout appris, en fait. C'est-à-dire, en l'espace d'une demi-heure, vous parcourez, je veux dire, l'évolution mentale d'un individu, vous voyez le moment où il imite un peu au départ, et puis après, comment il s'installe chez lui, son regard, il a confiance un peu en son regard, et comment il le travaille jusqu'à la fin de sa vie, grosso modo. Et ça m'a beaucoup appris. Les films, vous pouvez pas voir tous les films de quelqu'un en peu de temps pour les radiographier, et la peinture de ce côté-là. Et j'ai su un peu le jour où j'étais chez moi en filmant, grâce à ça.
Il y a des natures mortes dans le film. Je veux dire que finalement, cette histoire d'amour bouleversante, elle est représentée par des corrélatif objectif, comme on disait en poésie, par des fruits, des cailloux, des oreillers, des traversins. Il y a même presque la forme d'Irène, une sorte de traversin sur le mur, sur le lit. Enfin, c'est-à-dire que le monde silencieux, comme on appelle cela, des still life en anglais, le monde silencieux, c'est-à-dire le monde des la vie silencieuse ou la vie tranquille, c'est-à-dire les natures mortes. Était un écho permanent de la vie.
C'est-à-dire, en fait, la vitalité du film, c'est celle du cinéaste qui, voyant revenir cette personne ancienne et la trouvant exactement telle qu'elle est dans la vie, hein, dans la vie qu'il a eue avec elle, et comme je ne l'avais pas vue morte en plus de ça, ses traits étaient vivants. Et j'ai essayé de l'incarner, de lui donner un corps. Alors j'ai filmé d'autres personnes, j'ai eu la tentation de filmer même des actrices, des comédiennes, et puis de reconstituer des petits moments de la vie d'Irène. Et à chaque fois, c'était un échec. Et à chaque fois, je trouvais dans la vie des morceaux de vie, qui me semblaient beaucoup plus proches d'Irène que de prendre quelqu'un qui ne lui ressemblait pas, qui ne pouvait pas être elle. Et donc, c'est comme ça que j'ai conduit le film pendant plus d'une heure. Et au bout d'un certain moment, je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas quand même une photo, simplement une photo? Et puis, j'ai publié une photo pour une raison très précise. À un moment, on voit son chien qui est dans son giron, qui la regarde comme ça, et qui est en train de mourir, mais elle n'y croit pas encore. Elle est nue, d'ailleurs. Et dans le carnet, il y avait écrit une séquence que j'avais vécue avec elle, qui m'a frappé, donc j'ai un souvenir intact. J'avais la tête à la place du chien, comme ça, renversée sur son visage et sa poitrine. Et je la voyais pleurer devant l'agonie off sur l'écran de télévision de la dame aux camélias dans le film de Cukor avec Greta Garbo. Alors, les deux m'ont permis de publier la photo, d'avoir une raison de publier une photo. Et puis après, de mettre une autre, et puis une troisième. Voilà. Il faut une raison dramatique, en fait. Comme moi, quand j'ai montré ma tête très fugitivement dans le film, c'est parce que je m'étais cassé la gueule dans l'escalier mécanique d'un métro, et que j'avais des traces sur le visage.
Quoi. Ça renvoie d'ailleurs aussi à votre cancer que vous évoquez dans Le Filmeur, où il y a deux moments du Filmeur où on voit votre visage et votre peau marquée
oui,
par...
Oui. Alors ça m'a amusé parce que j'avais un cancer du nez, et puis ils m'ont curté, ils m'ont fait... Enfin, et puis quand je suis sorti de là, j'avais une tronche absolument mais impossible. Et je me suis filmé dans la glace avec un ravissement total parce que je me suis dit je suis beaucoup plus fort que tous les maquilleurs hein, depuis que le cinéma existe.
Que Boris Karloff.
Voilà. Ça,
et Bela Lugosi.
Très costaud, ça. Hein. Et comme j'abandonnais petit à petit toutes les l'hémoglobine, je ne peux pas filmer quelqu'un qui meurt. Je ne peux pas filmer une scène d'amour de comédiens qui font semblant de... Donc là, j'étais très content de dire que ça, au moins, c'était vrai et que c'était mieux.
Donc, vous êtes un peu comme Montaigne qui dit dans ses essais qu'il veut se montrer avec tout, avec ses verrues, avec ses défauts. Votre corps, c'est important. Voilà, vous avez une crise de goutte, vous avez un zona. Dans le Filmeur, c'était votre visage marqué par... donc, l'importance du corps.
Ben c'est le corps qui filme. Avant, je croyais que c'était l'esprit, le pur esprit qui filmait. Puis petit à petit, j'ai découvert que c'était le corps et le matériel cinématographique, la base. Hein. Et le corps, mon corps est un outil et je vis, je filme. Je crois qu'avant, il fallait beaucoup vivre pour filmer un petit peu, à nourrir les films. Et puis petit à petit, je me suis aperçu que vivre et filmer, c'était la même chose. Je ne fais plus la différence et voilà, ça continuera comme ça jusqu'au bout.
Mais il semble quand même que la vie soit plus importante que l'art, que le cinéma, que la peinture, pour vous, puisque c'est devenu la source d'inspiration vraiment majeure.
Bah, c'est-à-dire que tous les films, toutes les peintures, toutes les lectures qui ont pu quand même m'aider à un peu accoucher de moi-même, c'est fait maintenant. Donc, la seule chose qui me reste, c'est de continuer à fabriquer, quoi. C'est tout ce qui me reste à faire.
Mais vous évoquez aussi un moment où, peu avant la disparition d'Irène, vous aviez envisagé un film avec elle.
Ah oui, mais c'est, je le dis d'ailleurs dans le film, comme nous avions des rapports un petit peu compliqués, comme après la chamade, je cherchais à renouveler un tout petit peu ma façon de travailler, j'avais loué un appartement, installé une table de montage, et j'étais prêt à m'y enfermer moi-même pendant 5 semaines de tournage et de descendre le film monté. Et ce film-là était simplement mes rapports avec Irène, avec un cadreur et un ingénieur du son. Et tout était prêt, elle était un tout petit peu angoissée, un petit peu, et en même temps attirée par tout ça. Je pensais que ça nous ferait fait avancer, même si ça nous conduisait à la séparation. C'est-à-dire que c'était dangereux. Et j'ai découvert plus tard, en filmant moi-même, que c'est dangereux de filmer, et que c'est bien quand c'est dangereux. Et qu'un jour, et avant le début de ce tournage, elle a son accident de voiture, elle meurt. Et donc j'ai à la place d'un film, j'ai un trou noir d'un film qui aurait pu m'aider dans ma vie avec elle et m'aider dans ma vie de cinéaste. Donc peut-être que 37 ans après, j'ai bouché ce trou. Peut-être.
Et une autre actrice que vous évoquez, c'est Sophie Marceau. C'est cette femme que vous ne connaissez pas, à qui vous n'avez jamais parlé, mais dont une photo est... Et punaisée sur le mur.
Je ne cesserai de rendre hommage à cette femme que j'ai découverte au cinéma quand elle avait 13 ans. Hein. Elle en a 43 maintenant, elle est aussi magnifique. J'ai voulu toute ma vie faire un film avec elle, trouver quelque chose qui me permette d'aller la voir et de lui proposer un rôle intéressant. Ça ne s'est pas produit, ça ne devait pas se produire. Et un jour, j'entre chez mon marchand de journaux et je vois une photo, ça s'appelle Psychologie, une revue, d'elle que je trouve absolument superbe, et je la scotche à l'intérieur d'un placard. Et de temps en temps, je l'ouvre, je la regarde, ça me fait plaisir, ça m'amuse. Je la filme, je fais des petites déclarations, et quand je commence à penser au film Irène, Je me dis, ça serait drôle quand même de lui téléphoner et je rêve d'elle. Et c'est merveilleux parce que c'est un rêve très précis. Elle est au fond d'un café désert et puis elle m'a convoqué et elle me dit, voilà, elle a les carnets que j'avais écrits à cette époque-là. Et elle me dit qu'elle est la fille d'Irène et que si je veux faire un film sur Irène, il n'y a qu'elle qui peut. Alors j'ai pensé que c'était quand même un signe du destin. Et je me suis procuré son portable et je ne l'ai jamais appelé.
Mais elle n'a pas réagi.
Alors le film s'est terminé. Comme on la voit quand même, tu lui fais des déclarations quand même dans le film. Je lui ai montré le film. Je ne l'ai pas vu. Et puis elle m'a envoyé une lettre absolument adorable, merveilleuse. Et je crois que je ne la verrai jamais jusqu'à la fin de ma vie en ayant eu un grand rapport avec elle.
Mais en même temps, est-ce que Sophie Marceau, c'est pas antagonique du numérique? Est-ce que vous pourriez la filmer en numérique?
Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Je dis même dans le film, à ses heures de libre, de temps en temps, faire quelques plans comme ça avec elle, et puis construire petit à petit un film sur plusieurs mois, pas en 7 semaines, en se voyant 9 heures par jour, comme des prolétaires, j'oserais dire, entre guillemets. Des gens payés pour travailler à heure fixe.
Puisqu'on parle des femmes qui jouent un rôle important dans votre vie, puisque vous avez aimé diriger les comédiens, mais particulièrement les comédiennes, il y a aussi ce film, votre compagne, Françoise Vidoff, qui joue un rôle très important dans vos films. La Rencontre, c'est tout de même un film sur le temps, sur préserver un amour, sur le rôle du temps dans les rapports amoureux. C'est la rencontre elle-même. Elle est présente aussi dans Le Filmeur. Elle est présente aussi puisqu'il y a ce film qui s'appelle Vie, où elle évoque la maison où habitait Orson Welles, qu'elle a connue aussi.
Oui, avec lequel elle a travaillé quand elle était très jeune fille. Bah, Françoise Widoff, c'est une rencontre que j'ai faite assez tardivement dans ma vie. Et quand nous nous sommes rencontrés, un jour, elle est revenue du marché avec un superbe poisson, une dorade. Et j'ai filmé, avec ma première caméra vidéo, cette dorade. Je lui ai demandé le prix. Et puis, petit à petit, j'ai filmé certains petits gestes d'elle. Et puis, un film est né, qui s'est appelé la rencontre, qui ne devait pas avoir de fin, puisque je continue à vivre et à travailler avec elle. Et puis, finalement, un jour, elle m'a dit, écoute, si ce film-là, si tu continues à le faire, c'est des choses qui ne nous appartiendront plus. Comme si, je veux dire, on perdait quelque chose à le mettre sur la pellicule. Et j'ai arrêté. J'ai indiqué aux spectateurs que je ne pouvais pas continuer à cause de ça. Elle se dérobait carrément. Et comme elle avait une sensibilité, une expérience du montage, je ne m'assois jamais devant la table de montage sans qu'elle soit à côté de moi. Et comme nous vivons ensemble, c'est en plus de ça extrêmement pratique, il faut reconnaître. Hein. J'ai une économie cinématographique inouïe. Et sans elle, je ne pourrais pas continuer à faire ce travail. Qui est un travail de solitaire à la prise de vue, mais de faux solitaire, parce que le plan n'est bon que si vous envoyez une espèce d'onde qui a un petit peu de sentiment, et puis qu'elle vous revient un peu chargée aussi. Donc vous n'êtes pas seul. Mais au montage, devant l'abondance de ce que vous avez tourné, s'il n'y a pas quelqu'un à côté de vous qui a un jugement, qui sait qui vous êtes et qui vous guide un petit peu, c'est foutu, quoi.
Dans la rencontre aussi, ce qui m'avait frappé en voyant le film, je l'ai revu récemment puisque on peut le voir en DVD, je mentionnerai tout à l'heure, c'est aussi tous ces plans, un petit caillou en forme de cœur sur la plage d'Étretat, une feuille d'arbre, des clés rassemblées par un porte-clés, un insecte mort. Enfin, on pense aux tableaux hollandais, aux tableaux d'intérieur, aux objets, à tout ce qu'on peut trouver dans les cabinets que les peintres aimaient ou que les collectionneurs aimaient. Il y a un goût un peu d'entomologiste et aussi tout simplement de détails. D'ailleurs, vous filmez aussi dans la rencontre l'oreille de Françoise, le pied, la pointe d'un sein. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fragmentation du monde. Ça vous, visiblement, c'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement.
Bah d'abord, je suis myope, hein, je ne vois pas bien de loin, donc je suis obligé de m'approcher des choses. Et puis, j'ai quand même appris de ma double éducation chrétienne et de l'autre côté païenne, parce que je faisais des études de latin et de grec, je connais très bien la mythologie, je traduisais Homère au collège, que toute chose est une parcelle de la divinité, un ruisseau à un être humain, une main. Et de l'autre côté, qu'il y a une multiplicité de dieux partout, hein, et que tout ça s'agite et qu'il n'y a pas de hiérarchie entre un visage et une montagne. Hein. Tout est preuve de vie, épreuve de et on célèbre ça sans distinction, sans hiérarchie.
Mais ce qui vous intéresse tout de même dans l'être humain, c'est selon moi, c'est le visage, la main. Le visage et la main qui dominent.
C'est-à-dire que je suis obligé de le découper un petit peu, un petit morceau, parce que les 9 dixièmes des films que vous voyez, les gens sont coupés à la taille.
En plan américain.
En plan américain, ce qu'on appelle le plan américain, parce que ce sont des acteurs connus et il faut que le public les voit. Alors, ils avancent vers la caméra, ils stationnent là, ils sont glamour, ils ont un texte, bon texte, une situation qui les met en valeur. Et vous, alors moi je me dis, je vais pas continuer à faire ça. Ça m'intéresse pas puisque c'est le langage dominant, si j'ose dire. Alors je découpe un peu. Françoise, son oreille, sa bouche, et petit à petit, c'est au spectateur de reconstituer le visage, comme d'imaginer le visage d'Irène qu'on ne voit pas pendant
pendant 60 minutes. C'est plus marrant à faire, et c'est peut-être plus excitant, peut-être pour le public, de se dire, mais quelle tête elle a, est-ce qu'il va nous la montrer à un moment Enfin, je le pense, je me raconte des histoires.
Dans Vie, vous avez un sculpteur, un boucher, un chirurgien, et puis Wells. Oui. Vous avez quatre vies. Dans il y a 24 portraits d'artisans dans votre film qui s'appelle 24 portraits. René, c'est le portrait d'un acteur obèse, donc qui subit un traitement pour maigrir. Donc il y a un balancement entre le je et le il, entre le subjectif et l'objectif. Est-ce que vous n'avez pas envie de fondre les deux, c'est-à-dire d'abolir cette distance entre le subjectif et l'objectif?
Alors, on revient un peu à René d'Hiroshima, mon amour. C'est-à-dire qu'entre les plans du musée d'Hiroshima et cette histoire un peu romanesque de cette femme à Nevers avec ce soldat allemand... hyper romanesque, il essayait quand même de créer un lien entre une passerelle, entre deux choses qui, en principe, ne collaient pas l'un avec l'autre, sauf que c'était la guerre. Et moi, entre qui vient du île et qui suis passé au jeu, je rêverais que les deux termes n'existent plus, comme le terme de fiction et de documentaire. C'est-à-dire que tout ce qui est opposition systématique, le haut, le bas, le salé, le sucré, c'est très emmerdant, je trouve. C'est très ennuyeux, c'est très réducteur. Et il faut toujours aller au-delà et découvrir un espèce de paysage où il n'y a pas de mots, en fait. Il n'y a plus de mots. Et où on réunit, où on réconcilie, où on enchante un peu un ensemble, quoi.
Si on revient aux origines, tout de même, le film, la matrice de tout ce travail, c'est un film qui nous avait beaucoup surpris, tous les gens qui vous admiraient. C'était un film qui paraissait tellement radical qu'on voyait pas comment on pouvait recommencer autre chose. C'était « Ce répondeur ne prend pas de message », où vous vous entouriez la tête de bandelettes, on ne voyait pas votre visage, tous les murs de la pièce étaient peints en noir, et c'était presque un film insortable, c'était presque un film confidentiel. Et ça a été pourtant le point de départ de cette réflexion.
Oui, c'est un film de 78, donc maintenant ça fait 30 ans, et qui vient aussi d'un songe. Je fais des petites siestes, et je me suis vu en train de peindre entièrement la grande pièce de où je vivais, en noir, et il y avait deux grandes fenêtres, et les vitres aussi, jusqu'à ce que je sois dans le noir. Et je me suis dit, c'est le meilleur sujet que j'ai jamais trouvé de ma vie. À ce moment-là, je me suis dit. En fait, c'était un dispositif assez contraignant, mais intéressant quand même. Et j'ai fait un film en 7 jours avec un ingénieur de son et un opérateur, et à l'intérieur duquel j'ai glissé des choses de ma vie du jour passé, etc. Et que je ne voulais pas publier. Ça a coûté 20 000 francs, donc j'avais pas de problème de sortie. Et c'est Marine Kermitz qui l'a vu et qui l'a sorti dans une salle pour qu'il existe en tant que film. Il y a eu une copie en 16 mm pendant 30 ans. Et puis maintenant, il a été restauré pour être publié en DVD.
Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a même plus d'ingénieur de son ni d'opérateur. C'est-à-dire que vous êtes un homme totalement libre. C'est-à-dire que vous avez supprimé le rôle de l'argent dans le cinéma.
J'ai essayé de fondre. C'est toujours le même principe. C'est-à-dire que l'argent, c'était quand même dur à supporter. Donc, il fallait que je traite un jour à égalité avec l'argent. Je peux pas nier l'argent. Il me faut un peu d'argent pour vivre et même pour faire mes films. Mais je ne veux pas que cet argent pèse sur n'importe quelle décision que je prenne pour le film. Alors, j'y suis arrivé à cause du matériel qui permet de tourner à moindre frais qu'avant. Et puis, j'y suis arrivé aussi parce que mon esprit s'est dégagé d'envie de comédien, de scène chère, de voir des choses qui sont très, très onéreuses à reconstituer. Je me suis adapté entièrement à cette lutte contre l'argent, ce qui fait que j'ai rendu l'argent neutre.
Voilà. Vous avez rendu l'argent neutre, mais on peut voir tout de même Irène dans 4 salles à Paris et dans d'autres salles, évidemment, en province. On peut aussi, Alain Cavalier, redécouvrir ou découvrir vos films en DVD, en tout cas de ceux dont on a parlé dans cette émission, puisque Thérèse est sortie chez Arte Vidéo avec beaucoup de suppléments, avec votre film sur Georges de la Tour, avec votre portrait par Jean-Pierre Limousin, avec une lettre, très belle lettre de vous-même, et 20 ans après, un petit film. Il y a également 24 portraits, ces fameux portraits d'artisans qui sont également chez Arte Vidéo en deux DVD. Et enfin, chez Pyramide, une intégrale autobiographique avec le filmeur, la rencontre. Ce répondeur ne prend pas de message. Il faudra ajouter Irène dans quelques temps.
Irène, c'est fini. Maintenant, j'ai fini l'autobiographie. Et alors, quand je vous dis, je tiens à une chose, c'est que je suis né dans la salle. Et que malgré les films un peu particuliers que je fais, je garde le contact avec le spectateur. Et je veux finir ma vie de cinéaste dans la salle. Je veux que mes films soient dans la salle. Et donc j'y travaille quand même.
C'était Projection privée. Alain Cavalier s'entretenait avec Michel Simon à propos de son film Irène, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 7 novembre 2009. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits.